Bonsoir et bienvenue sur le créneau du Sonolab. Ce soir, vous allez découvrir une série radio sur la citoyenneté et l'écologie avec les 5e F de Lannoy Lambert, un collège situé à Nantes. C'est un très gros projet qui a été mené de front par deux enseignantes du collège, une de français, une d'histoire, ainsi que leurs élèves de 5e. Ils et elles se sont investis sincèrement sur ce sujet, en travaillant en classe entière sur la réflexion et la rédaction de questions à poser auprès d'experts et expertes, et en groupe sur chaque épisode afin de vous livrer un contenu de qualité et, disons-le, admirable, surtout du haut de leurs 12-13 ans. Cet épisode 3 et l'épisode 4 a été rédigé et animé par Blanche, Timéo, Félix, Oscar et Clémence, Romano, Ryan, Ismaël, Adam et Aya. Chaque épisode comporte plusieurs extraits d'interviews réalisés par les élèves de A à Z. Les recherches, la rédaction des questions, les entretiens et la prise de son. Certains propos servent d'ailleurs à plusieurs épisodes, mais chaque épisode cependant traite en détail d'un angle sur la thématique de l'écologie et de la citoyenneté. Vous retrouverez les interviews complètes un peu plus tard sur notre page Castopod dédiée au projet. En attendant, bonne écoute.
Les 5e F de Lannoy Lambert vous présentent une série de podcasts sur l'écologie et la citoyenneté du point de vue des jeunes. Avec l'aide et la participation de
Élodie Mathès-Legarec,
Géraldine Le Priol.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Jet FM. Je m'appelle Timéo et aujourd'hui je suis accompagnée de Blanche.
Hello.
D'Oscar.
Salut.
Félix.
Yo.
Et Clémence.
Hola.
Nous allons parler de l'égalité et les risques dans le climat.
Mais qu'est-ce que l'égalité et les risques dans le climat ?
Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons interviewer plusieurs spécialistes.
Dont M. Piasecki, journaliste scientifique, M. Riom, élu à la mairie de Nantes et vice-président de Nantes Métropole travaillant sur les énergies, et Mme Badzer, climatologue à l'Université de Nantes.
Nous allons débuter avec l'interview de M. Piasecki, journaliste scientifique.
Je m'appelle Fabien Piasecki. Je suis quelqu'un qui a été curieux assez jeune et qui s'est impliqué sur les questions d'écologie assez jeune. J'avais lu un article dans Sciences et Vie Junior et ils expliquaient comment devenir le Zorro anti-pollution et l'expression avait bien plu à l'époque. Je fais toute ma carrière professionnelle après de longues études universitaires. J'ai fait toute ma carrière professionnelle plus ou moins dans ce qu'on appelle l'activisme ou le militantisme, en travaillant surtout à la critique des sciences et ce qu'on appelle les technosciences, c'est-à-dire tout ce qui est technologie mêlé aux sciences et à ce progrès ultra rapide là dans le camp qu'on ne maîtrise pas. J'ai travaillé en tant que journaliste là-dessus, j'ai travaillé comme documentariste et puis maintenant, depuis une quinzaine d'années maintenant, je travaille dans une association militante, activiste, qui essaye de faire du plaidoyer auprès des politiques pour que les citoyens et les citoyennes soient impliqués dans les grandes orientations scientifiques et techniques et donc dans tout ce qui concerne l'écologie, l'environnement et la société au sens large.
En quoi consiste votre métier ?
En fait, à Sciences Citoyennes, on est une toute petite équipe. Hein. C'est une petite association qui essaye d'agir largement, mais du coup, on est un peu multitâche, comme on dit. Moi, je m'occupe de tout ce qui est toute la communication de l'association, tous les plaidoyers, quand on essaye d'avoir une influence sur des politiques, en particulier sur toutes les politiques de recherche. Je travaille pour promouvoir ce qu'on appelle les conventions citoyennes, c'est-à-dire des processus qui permettent aux citoyens d'émettre des recommandations. Vous avez peut-être entendu parler de la convention citoyenne sur le climat. Avec mes collègues et avec des chercheurs, nous, on travaille à améliorer ces processus-là, encore une fois, pour que les citoyennes et les citoyens aient leur mot à dire. J'espère œuvrer, en tout cas, pour une planète écologiquement et socialement plus juste.
Quel rôle avez-vous dans la transition écologique ?
On essaye de travailler à réorienter les politiques de recherche au niveau français et au niveau européen. Réorienter les politiques de recherche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des espèces de gros bulldozers, des grandes orientations qui sont décidées tout en haut, quelquefois par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui se laissent influencer par ce qu'on appelle le lobby industriel. Et nous, ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau, c'est de faire en sorte, je vous l'ai déjà dit, que les citoyennes et les citoyens soient écoutés, mais aussi qu'une partie des budgets de recherche soit décidée par les citoyens eux-mêmes, les citoyens et les citoyennes eux-mêmes, parce qu'on est convaincu que si les citoyens et les citoyennes ont leur mot à dire, ils iront naturellement vers des choix qui soient plus écologiques, qui soient moins impactants sur la planète, pour la planète, pardon, et qui soient socialement plus justes, encore une fois.
En tant que jeune, quelles actions pouvons-nous faire pour la planète ?
Dans ce que je vais vous recommander maintenant, limiter son temps sur Internet. Parce que on se rend pas bien compte, hein, et moi le premier, hein, dans mon travail, je passe énormément de temps dessus, mais on oublie que ça consomme énormément d'énergie d'aller sur Internet, parce qu'il y a des serveurs distants qui sont autour de la calotte glaciaire en particulier, donc ça fait des chemins qui sont très très longs, c'est très énergivore. Enfin, à votre niveau, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut sensibiliser son entourage. Sensibiliser vos copains, vos copines, sensibiliser vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents.
Merci à Monsieur Piasecki d'avoir répondu à nos questions.
Maintenant, nous allons écouter Monsieur Riom, élu à la mairie de Nantes, travaillant sur les énergies.
Bonjour, je m'appelle Tristan Riom. Donc, depuis 2020, l'année 2020, je suis élu à la ville et à la métropole de Nantes. Et un de mes postes, c'est donc vice-président de Nantes Métropole, en charge des questions de transition écologique. Donc ce métier, c'est d'orienter les politiques publiques, d'orienter les choix politiques qu'on fait sur la métropole de Nantes sur les questions de transition écologique.
À Nantes, qu'est-ce qui est fait pour consommer moins d'énergie ?
Parfois, quand on parle d'énergie, on a tendance à se dire comment est-ce qu'on trouve des énergies renouvelables, mais en fait, on ne peut pas produire autant d'énergie renouvelable que ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc il faut consommer moins d'énergie, c'est super important. Pour ça, un des leviers principaux, c'est de rénover les logements. Parce que un tiers de notre énergie est utilisée en chaleur pour chauffer les logements, chauffer les douches, faire la cuisine, etc. Donc, rénover les logements, ça nous permet de consommer moins d'énergie parce que les radiateurs, ils émettent de la chaleur qui ne va pas sortir par la fenêtre. Le deuxième gros sujet d'énergie qu'on consomme, c'est pour la mobilité. Donc, pour réduire les consommations d'énergie dans la mobilité, il faut utiliser des systèmes qui sont moins qui consomment moins d'énergie. Donc, par exemple, si vous venez en voiture le matin avec vos parents, passez au vélo, ou passez à pied, ou passez en trottinette ou en bus. Il y a plein de solutions. Ça permet de consommer moins d'énergie.
Certaines énergies présentent-elles des risques ?
Moi, je pense que toutes les énergies présentent des risques. La question, c'est quel est le niveau de risque qu'on accepte dans la société ? Donc, le pétrole, par exemple. La combustion du pétrole émet du CO2 et ça présente un risque pour nous tous sur l'ensemble de la Terre parce que le réchauffement climatique, ça met tout le monde en danger. Donc le pétrole présente un risque sur le long terme dû au réchauffement climatique. Après, il y a des énergies qui représentent un risque un peu plus localisé, dû à ce qu'on appelle des accidents industriels, typiquement l'énergie nucléaire. Ça, c'est un gros débat dans le monde en général parce que une centrale nucléaire, lorsqu'elle a un accident, ça peut toucher l'entièreté de la planète. Donc on est tous un peu liés autour de cette énergie, comme on est liés autour de la question du réchauffement climatique. Toutes les énergies ont un impact, mais vous voyez que le pétrole et le nucléaire ont beaucoup plus de risques que, par exemple, une chaufferie bois. Parce que, par exemple, si vous faites un feu de cheminée chez vos parents ou chez vos grands-parents, s'il y a une cheminée, il y a un risque d'incendie, des choses comme ça. Mais ça représente des risques qui sont largement moindres, si c'est bien fait, que les autres énergies dont il faut se passer. Donc les énergies renouvelables représentent moins de risques que les autres énergies. Quelque chose qui est important, c'est que la métropole elle gère notamment l'espace public. Et donc ce qu'on est en train de faire depuis quelques années, c'est qu'on change un peu la règle quand on aménage l'espace public. Avant, on aménageait d'abord pour la voiture, ensuite un peu pour les cyclistes, ou presque pas, et un peu pour le piéton en dernier. On a inversé la règle. Maintenant, on pense d'abord au piéton, ensuite au vélo, et après à la voiture.
Pourquoi la transition énergétique et écologique ne va-t-elle pas plus vite ?
C'est une excellente question parce que je pense que beaucoup de gens très très importants qu'on voit à la télé n'ont pas compris ce sujet-là. Souvent, on pense que la transition énergétique, c'est trouver une solution à une solution, un problème. Déjà, quand moi j'étais au collège, etc., on parlait de réchauffement climatique, c'était déjà présent. Donc comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé la solution ? C'est parce que lutter contre le changement climatique, c'est remettre en cause plein de choses de la société. C'est pas juste trouver une solution à un problème. Parfois, on dit qu'il faut faire preuve de sobriété énergétique. Vous avez entendu parler de ça, c'est essayer de consommer moins d'énergie. En face, on peut dire qu'on est dans une société d'ébriété énergétique. C'est comme si on était vous savez, alcoolisé à l'énergie, quoi. On est en train d'en consommer dans tous les sens et on se rend même plus compte de ce que ça fait. Donc c'est ça ce qu'on va vivre, nous, en fait, dans les années à venir. C'est une société où on va se dire, il faut consommer moins d'énergie et ça aura plein d'impact partout sur la société.
Comment nous, enfants, pouvons gérer les énergies, comme l'électricité, l'eau, etc., pour en moins, pour moins consommer?
Alors déjà, au niveau individuel, vous pouvez vous demander où est-ce que vous consommez de l'énergie. Je vous ai dit, le chauffage, la mobilité, peut-être quand on cuisine, on peut choisir aussi des systèmes qui consomment moins d'énergie. Même en étant un super-héros du climat ou une super-héroïne du climat, vous n'arriverez pas à être absolument parfait. Donc, il faut embarquer les gens autour de vous. Alors, par exemple, vous pouvez, avec votre famille ou vos amis, vous lancer dans un défi qu'on fait à la métropole. On appelle ça les défis climat. C'est pour travailler sur le mode de vie, donc comment je vis et puis comment on vit en communauté pour avoir une société plus écologique.
Comment et pourquoi vous êtes-vous engagé dans la lutte pour le climat ?
Moi, j'avais une forme d'inquiétude autour de ces questions climat parce que, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis rendu compte que ce qu'on me racontait à l'école et ce qu'on me racontait notamment dans mon école d'ingénieur n'était pas du tout en lien avec ce que je pouvais lire ou les reportages que je regardais. Et donc, j'avais ce qu'on appelle une dissonance. Une dissonance, c'est quand d'un côté, on fait quelque chose et de l'autre, on voit bien que ce qu'on aimerait faire est complètement différent. Et donc, ça ne m'allait pas, en fait. Il y avait un écart entre les deux. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'engager. Alors je me suis dit qu'il me fallait un travail engagé. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans les énergies. Mais je voulais aussi m'engager dans des associations, dans la politique, pour en fait vouloir un peu changer les choses.
Jet FM.
La radio.
91.
Curieuse.
Point 2.
Merci à Monsieur Riom.
Et pour finir, nous allons interviewer Madame Balder, climatologue à l'Université de Nantes.
Je suis Agnès Balzer, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et je travaille entre autres sur le climat. Je suis sédimentologue et géophysicienne. Et je travaille plus particulièrement au pôle Nord, dans un endroit qu'on appelle le Svalbard. Et je travaille à cet endroit-là parce que c'est l'endroit où le changement climatique va beaucoup plus vite qu'ailleurs pour l'instant. Et donc, on comprend déjà ce qui se passe en ce moment et on observe du coup les changements de température, la fonte des glaciers, puisque ça va avec, et donc tous les changements des masses d'eau que je vais vous expliquer un petit peu. Vous savez quel âge elle a, la planète ? Allez, dites-moi un chiffre.
Elle a des milliards d'années.
Combien ?
300 000. 300 milliards d'années.
Non.
4 milliards d'années.
Un peu plus, ouais. Elle a
4,56 milliards d'années. Donc elle est très vieille, d'accord ? Milliards d'années, hein, vous voyez tous les zéros que ça fait derrière le 4, d'accord ? Évidemment, la planète, elle va encore continuer des milliards d'années à tourner et à faire ce qu'elle doit faire. Notre problème qu'on a maintenant, nous, c'est que notre environnement, comme on a beaucoup puisé dedans, on a pris beaucoup de ressources et c'est surtout, on a fait beaucoup de déchets. Et ces déchets, on s'en est pas occupé du tout jusque-là, on pensait que ça allait continuer. Et c'est notre environnement dont on a besoin pour vivre, qu'on est en train d'épuiser. Et là, on s'en aperçoit, on est capable de le calculer et on s'aperçoit maintenant qu'on est en train justement de réchauffer l'atmosphère. Vous l'avez compris, hein, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique, entraîné par, en fait, l'activité humaine, parce qu'on a remis beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre. Vous en avez entendu parler, hein, de ces gaz à effet de serre. Donc, c'est l'activité humaine qui fait qu'on va rajouter du CO2, qu'on va rajouter du méthane dans l'atmosphère. Donc, je travaille, moi, au pôle Nord. Là. D'accord ? Ça, c'est le pôle Nord. Ça s'appelle... Vous savez comment ça s'appelle, le pôle Nord ? Et en fait, on s'est aperçu, donc, depuis 2015, que même pendant tout l'hiver polaire... Avant, on avait toujours de la glace qui recouvrait, donc de la banquise qui recouvrait la mer, les fjords où on était. En fait, maintenant, elle n'est pas tout le temps là. Ça veut dire que notre super banquise qui était là et qui permet à l'ours blanc de se mettre sur la banquise, de se cacher avec son nez comme ça, d'attendre à côté d'un trou qu'un phoque arrive, ça ne marche plus. Parce que comme il n'y a plus de banquise, l'ours blanc, il ne peut plus chasser comme ça. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les hommes, avec nos super machines et nos super trucs, il faut aussi qu'on s'adapte à notre environnement. Parce que l'environnement, il a changé. Il est en train d'évoluer. Et donc, c'est ça la transition écologique. Il faut qu'on comprenne comment on peut continuer à consommer en diminuant un peu, parce qu'autrement on continue à faire s'échauffer notre couette autour de la Terre et donc on continue à avoir des températures chaudes. Je vous dis, le problème c'est que nous, l'homme, on n'est pas du tout fait pour des températures à 50 degrés, on meurt. En gros, on n'y arrivera pas, quoi. Donc c'est ça notre problème, c'est que si on continue à échauffer la planète, et ben nous, on n'y arrivera pas.
Merci à Madame Balzer.
Sédimentologie, étude de la sédimentation et des sédiments liés à la nature, à la configuration, à la répartition et à la restitution des dépôts sédimentaires.
Les sédiments sont des dépôts continentaux ou marins qui proviennent de l'altération ou de la désagrégation des roches préexistantes et qui sont transportés par les fleuves et les glaciers ou les vents.
Lors de ces interviews, nous avons appris que la transition écologique, c'est
s'adapter, accepter le changement et vivre avec. Nous n'avons pas réagi assez vite auparavant. Maintenant, il faut accélérer, sinon nous n'arriverons pas à nous adapter assez vite. Nous avons appris que les ours polaires avaient changé d'alimentation à cause de la fonte des glaces, ce qui a entraîné un changement de mode de vie et qui revient à s'adapter. Ce que nous devons aussi faire. Nous devons donc changer de comportement pour réussir à nous adapter au changement climatique.
Nous avons appris le fait que les adultes ne se préoccupent pas assez de la situation des enfants dans la transition écologique. Les intervenants nous ont expliqué qu'il fallait tout d'abord s'informer pour pouvoir réagir à la situation écologique. Pourtant, nous aimerions faire plus d'action pour le climat, alors que nous, enfants de 12 et 13 ans, ne pouvons pas voter. Nous aimerions pouvoir participer à des actions concrètes pour la transition écologique auprès des adultes, que nos avis et nos paroles comptent.
Nous avons appris que les adultes ne savent pas vraiment ce que les jeunes peuvent faire pour la transition écologique, mis à part les actions du quotidien, exemple, prendre une douche qui dure moins longtemps. De plus, nous savons que des scientifiques ont essayé plusieurs fois des techniques pour accélérer la transition écologique. Certaines ont réussi et d'autres non. Nous savons aussi que les scientifiques ne sont pas assez écoutés. Nous remarquons aussi que les jeunes ne sont pas présents dans la transition écologique. Nous souhaitons avoir une place plus importante dans le vote des lois qui nous concernent car nous sommes la population de demain.
Merci à tous d'avoir participé et écouté ce podcast.
Ce podcast a été réalisé par les élèves de la 5e F du collège Lanoël Lambert.
Nous remercions les intervenants, M. Piasecki, M. Riom et Mme Balzer, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Nous remercions nos profs qui nous ont aidés à faire ce projet.
Et merci à toute l'équipe de Jet FM.
Bonjour à tous et bienvenue sur Jet FM. Nous sommes des élèves de 5e du collège Lanoël Lambert. Nous nous appelons Adam, Aya, Ismaël, Romano et Ryan. Nous allons aborder une question très importante. Qu'est-ce que la transition écologique ? Une société en transition écologique, c'est une société qui change pour atteindre ses objectifs et relever ses défis écologiques.
Nous avons interviewé Madame Badzer, sédimentologue, climatologue, spécialiste des océans et enseignante à l'Université de Nantes. Monsieur Citeau, adjoint à la mairie de Nantes, en charge des déplacements. Monsieur Riom, élu à la mairie de Nantes, en charge des énergies et de la transition écologique. Nantes Métropole. Et enfin, Madame Laernoès, députée à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé à Madame Badzer ce qu'est pour elle la transition écologique.
Je suis Agnès Balzer, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Notre problème qu'on a maintenant, nous, c'est que notre environnement, comme on a beaucoup puisé dedans, on a pris beaucoup de ressources et c'est surtout, on a fait beaucoup de déchets. Et ces déchets, on ne s'en est pas occupé du tout jusque-là, on pensait que ça allait continuer. Et c'est notre environnement dont on a besoin pour vivre, qu'on est en train d'épuiser. Et là, on s'en aperçoit, on est capable de le calculer et on s'aperçoit maintenant qu'on est en train justement de réchauffer l'atmosphère. Vous l'avez compris, hein, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique entraîné par en fait l'activité humaine parce qu'on a remis beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre. Vous en avez entendu parler, hein, de ces gaz à effet de serre. Donc, c'est l'activité humaine qui fait qu'on va rajouter du CO2, qu'on va rajouter du méthane dans l'atmosphère. Et l'océan, vous pouvez tourner la Terre dans tous les sens. l'océan, il est mondial, c'est-à-dire qu'il est connecté partout. L'océan Atlantique touche l'océan Pacifique, touche l'océan Arctique, dont on va parler. Donc tout ça, c'est une grosse masse d'eau qui bouge, qui tourne avec la Terre qui tourne avec d'autres mouvements. Donc tout ça, c'est très, très mouvant. Tout est en dynamique. Vous avez l'impression que le paysage ne bouge pas. Ça bouge tout le temps. Et autour de cette Terre, donc on a l'océan, un seul océan global, des continents qui bougent, qui font bien ce qu'ils veulent, enfin, on sait un peu ce qu'ils font quand même, et tout autour, on a l'atmosphère. Vous voyez ce que c'est l'atmosphère ? Ça nous permet, nous, d'être sur la Terre, et ça veut dire qu'en fait, grâce à cette atmosphère, donc vous imaginez une espèce de couche de gaz tout autour de la Terre qui permet de garder la chaleur sur la Terre. On est en train de rejeter plein de gaz. On a plein de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment augmenter la température qu'on va avoir à la surface de la Terre. Donc on a un environnement qui est en train de changer. Cet environnement, il est en train de changer beaucoup plus vite qu'avant, mais là, avec l'action de l'homme, parce qu'on consomme, on mange, on fait plein de choses, on bouge beaucoup, on a fait réchauffer comme ça très très vite notre atmosphère. Et donc c'est pour ça qu'on est à l'origine de ce dérèglement climatique, hein, quelque chose qui va très vite. Et donc la Terre, elle est obligée de s'équilibrer en température. Et donc il y a plein de choses qui fondent, le niveau marin qui remonte. Comme ça monte, ça veut dire que l'endroit où on va avoir le plus de, on va dire, de problèmes, ou enfin où ça va vraiment nous atteindre beaucoup, c'est sur le bord de la mer. Hein. La première chose qu'on a l'impression de voir, c'est ça. C'est que le littoral, il va être très affecté par cette remontée du niveau marin. Mais vous avez la remontée du niveau marin, vous avez des cycles de tempêtes, hein, un peu plus importants. Et c'est surtout le cycle de l'eau. Vous avez vu, là, tout d'un coup, il pleut beaucoup. Après, il ne pleut plus du tout. Après, il y a des inondations à des endroits. Il y a des sécheresses à d'autres endroits. Vous avez vu ça. Ça veut dire que partout à la surface de la Terre, et nous, en France, on le voit maintenant très bien, vous avez bien vu qu'il y a des étés qui sont vraiment chauds. On voit bien qu'on a des températures un peu trop chaudes en hiver. Et puis, on s'aperçoit qu'on a des inondations impressionnantes. Sauf que le climat, du coup, il change. Ça veut dire qu'on va avoir des températures plus chaudes. On va avoir plus de précipitations, pas au bon moment, pas aux bons endroits et ainsi de suite. Ça veut dire que notre environnement change. Et nous, on n'est pas adaptés à ça. Et le problème, il est, et c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est qu'il faut aussi qu'on arrête de consommer à fond, à fond, à fond comme on fait. Parce que si on n'arrive pas à diminuer nos gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça continue à se réchauffer, et ça va aller tellement vite que nous, on va avoir du mal à s'adapter. Il nous faut un peu de temps pour s'adapter.
Pour accélérer le rythme de la transition écologique, nous devrions aménager des villes durables, transports moins polluants, végétalisation de la ville pour ne pas laisser trop de béton, chauffage écologique, isolation avec des matériaux moins polluants, etc. Monsieur Citeau et Monsieur Riom nous aident pour ce
sujet. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis élue depuis juin 2020. Donc vous connaissez peut-être Madame la maire qui est Johanna Roland, qui est la chef de la majorité municipale.
Quel rôle avez-vous, vous les élus municipaux, dans les transitions écologiques et quels sont vos engagements personnels dans la transition écologique?
Mes engagements personnels, c'est à la fois ce que je fais au quotidien. Moi, je me déplace qu'à vélo. J'ai considérablement réduit ma consommation de viande. J'essaye d'acheter moins de vêtements neufs. Voilà, il y a plein d'objets dont on parle au quotidien que j'essaye, moi, de mettre en place. Et j'ai envie de dire l'objet le plus fort, je crois que vous avez rencontré des militantes. En fait, moi, je suis militant. Aujourd'hui, je suis élu, mais à la base, je suis militant. Alors, militant d'un parti politique, c'est un petit peu différent d'être militant dans une association. En tant que militant politique, je me bats sur tel sujet, et j'estime que c'est important. Donc, j'essaie d'aller convaincre les gens que c'est important. On dit souvent, je pense que vous avez vu en géographie, qu'il y a plein d'autres planètes autres que la planète Terre, mais qu'on n'est pas dans des conditions où on peut habiter sur ces autres planètes. Eh ben, l'enjeu aujourd'hui et le débat qu'on a aujourd'hui, c'est que la planète Terre reste un espace qui est habitable où on peut continuer à vivre durablement. Et donc c'est constamment des débats qu'on doit avoir sur, où est-ce qu'on construit, comment on construit, avec quels matériaux, quelle place on laisse à la voiture, quelle place on laisse au vélo, comment on gère l'acheminement des déchets, comment quand on construit, on préserve la ressource en eau. Typiquement, à Doulongoar, pour donner un exemple très concret, sur la ressource en eau, je crois que vous en avez parlé avec des acteurs, on fait le choix de dire on fait aucun réseau d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut paraître technique comme mot, mais aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, sur tout ce secteur-là à côté du collège, il y a énormément de canalisations d'eau qui sont sous terre. donc sous le goudron, sous la rue, etc., pour gérer les eaux pluviales, gérer les eaux usées. Et donc sur Doulongoar, évidemment, les eaux usées, elles sont gérées via des canalisations, mais toutes les eaux pluviales, il n'y a aucune eau pluviale qui passera dans des réseaux canalisés. Et en fait, finalement, l'eau, elle est tout de suite restituée à la terre. Ça fait partie des demandes très fortes que nous, on pousse en tant qu'élus. Et vous évoquez tout à l'heure comment on fait. Bah, quand on dit qu'on fixe des trajectoires, et bien, quand on fixe des trajectoires, ça peut être typiquement un plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme, c'est un document qui va dire est-ce qu'on a le droit de construire, oui ou non, et si on construit, comment on doit faire. C'est plein d'objets comme ça qu'on doit travailler au quotidien, à la fois pour faciliter la vie, votre vie à vous, tout en préservant la planète.
D'après vous, aller dans des magasins de seconde main, par exemple des friperies, c'est faire de l'économie?
Plein de questions dans votre question. Alors, si la question c'est est-ce que la seconde main c'est faire des économies pour soi, la réponse est oui. Quel que soit le prix de la seconde main, c'est toujours moins cher que le neuf. Y compris quand c'est dans des boutiques qui sont dédiées à la seconde main, où parfois on est surpris du prix, parce qu'on a l'image de la seconde main dans des associations de réemploi. Et les associations de réemploi, ça, c'est beaucoup axé sur du travail bénévolat ou du travail d'insertion dans l'emploi, avec des personnes qui n'avaient plus l'habitude de travailler et qu'on remet dans une dynamique d'emploi. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'argent public qui vient aider ces entreprises d'insertion et ces associations. Quand c'est des boutiques qui sont 100% dédiées, c'est uniquement pour le coup de l'économie classique, de l'économie lucrative. Et donc, bah, de fait, il faut bien que le propriétaire de la boutique et les salariés de la boutique vivent. Et donc, les prix sont un peu plus élevés que dans une association qui est très aidée. Dans tous les cas, c'est vertueux parce que c'est des vêtements qui ont déjà été portés et qui sont réutilisés une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et que ce soit dans une association d'insertion où en plus, on accompagne des personnes dans le retour à l'emploi ou alors dans une entreprise qui est dédiée, qui est dans une logique lucrative, certes, mais qui là aussi contribue à avoir des emplois et des emplois qui font sens, parce qu'on voit de plus en plus de travailleurs aujourd'hui qui disent bah, « en fait, moi, mon boulot, je ne m'y retrouve plus parce que j'ai plus de sens » et qui reviennent dans des missions de ce type, typiquement des boutiques qui font de la seconde main, parce que ça fait sens. Alors généralement, ils sont un peu moins bien payés que dans leur précédent travail, mais au moins, ils s'y retrouvent parce qu'ils se rendent compte que ça a un impact hyper vertueux. Et je fais une dernière petite parenthèse, parce que j'évoquais tout à l'heure beaucoup la question de la livraison à domicile. Aujourd'hui, malheureusement, tous les sites qui font de la seconde main sont beaucoup moins vertueux que les boutiques qui font de la seconde main. Donc peut-être que ça va vous coûter un peu plus cher d'aller dans tout l'écosystème des boutiques de seconde main nantaises que si vous achetez, je ne vais pas citer de marque, mais sur des grands sites que je pense vous connaissez très bien. Mais en fait, la livraison, encore une fois, ça a énormément d'impact sur l'environnement. Et donc, même si c'est de la seconde main, c'est moins vertueux que si vous allez dans la boutique. Et en plus, encore une fois, vous créez du lien de proximité.
Jet FM.
La radio.
91.
Curieuse.
Point 2.
Bonjour, je m'appelle Tristan Riom.
En quoi consiste votre métier, votre mandat d'élu?
Donc, depuis 2020, l'année 2020, je suis élu à la ville et à la métropole de Nantes. Et un de mes postes, c'est donc vice-président de Nantes Métropole en charge des questions de transition écologique. Donc, ce métier, c'est d'orienter les politiques publiques, d'orienter les choix politiques qu'on fait sur la métropole de Nantes sur les questions de transition écologique. Et donc, toute la journée, je rencontre des gens comme vous, des habitants, des habitantes, des experts et des expertes pour faire les bons choix pour la métropole de Nantes.
Depuis quand travaillez-vous sur les énergies ?
La question de l'énergie a commencé à m'intéresser quand j'étais en études. Donc j'ai fait un collège et un lycée à Nantes qui s'appelle Guistot, qui est dans le centre-ville de Nantes. Et après, j'ai été dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ICAM, qui est donc à Carquefou, à côté de Nantes. Et à ce moment-là, ça a commencé à m'intéresser, cette question de l'énergie, parce que je voyais qu'il y a plein de sujets environnementaux qui se liaient dans juste ce truc qui s'appelle l'énergie. Donc j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à ça. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans ce domaine après mes études, où je travaillais dans le domaine de l'éolien. Donc vous savez, l'installation d'éoliennes en France, qui est un gros sujet, l'éolien sur Terre. Donc j'ai commencé à travailler là-dedans pendant à peu près un an et demi. Et après, j'ai arrêté de travailler dans l'éolien pour devenir élu.
Quelles sont les principales énergies produites et consommées ici en France ?
La principale énergie consommée en France, c'est le pétrole pour se déplacer et pour déplacer des choses et des marchandises. La deuxième type d'énergie qu'on va utiliser, ça va être l'électricité nucléaire, puisqu'il y en a un gros bloc électricité qui est produite beaucoup par du nucléaire en France. Donc la deuxième, ça va être l'électricité nucléaire. Et ensuite, on va avoir d'autres types d'énergie, notamment le gaz, qui est une énergie qu'on consomme beaucoup encore aujourd'hui en France, et les énergies renouvelables, notamment sur la métropole de Nantes. On a des réseaux de chaleur, on appelle ça. Donc, c'est des tuyaux d'eau sous pression qui sont un peu partout dans la métropole. Et du coup, on peut directement avoir de la chaleur produite par la métropole.
Comment varier les énergies utilisées ici en France et utiliser moins d'énergie fossile ?
On a globalement trois énergies qu'on utilise. Je vous l'ai dit, enfin, si je fais des gros cailloux, hein, enfin, très résumé, on a le pétrole, le gaz et le nucléaire. Le pétrole pour se déplacer, le gaz beaucoup pour se chauffer et cuisiner, et le nucléaire pour se chauffer, cuisiner et puis surtout faire tous les autres usages. Donc pour se débarrasser de ces trois, il faut en fait diversifier. C'est-à-dire qu'il faut trouver de nouvelles énergies. Peut-être que le déplacement se fera principalement aux muscles, à vélo, mais aussi avec des voitures qui peuvent rouler à l'hydrogène, au gaz vert, à d'autres solutions. Donc en fait, on va avoir plein de solutions technologiques différentes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, il faut que les citoyens soient prêts à consommer moins d'énergie et aussi qu'on recherche des solutions énergétiques qui soient le plus efficaces en fonction de ce qu'on veut faire. Donc si je veux chauffer une maison, chauffer à l'électricité, c'est pas très intéressant parce que ça, il y a plein de circuits différents, on perd beaucoup d'énergie dans le processus, c'est pas idéal. Par contre, chauffer au réseau de chaleur ou au bois, c'est beaucoup plus intéressant. Donc il faut qu'on diversifie et qu'on fasse tous ensemble les bons choix pour consommer la meilleure énergie.
Comment nous, enfants, pouvons gérer les énergies comme l'électricité, l'eau, etc. pour moins consommer ?
Alors déjà, au niveau individuel, vous pouvez vous demander où est-ce que vous consommez de l'énergie. Je vous ai dit, le chauffage, la mobilité, peut-être quand on cuisine, on peut choisir aussi des systèmes qui consomment moins d'énergie. Même en étant un super-héros du climat ou une super-héroïne du climat, vous n'arriverez pas à être absolument parfait. Donc, il faut embarquer les gens autour de vous. Alors, par exemple, vous pouvez, avec votre famille ou vos amis, vous lancer dans un défi qu'on fait à la métropole. On appelle ça les défis climat. C'est pour travailler sur le mode de vie, donc comment je vis et puis comment on vit en communauté pour avoir une société plus écologique.
Comment et pourquoi vous êtes-vous engagé dans la lutte pour le climat ?
Moi, j'avais une forme d'inquiétude autour de ces questions climat parce que quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis rendu compte que ce qu'on me racontait à l'école et ce qu'on me racontait notamment dans mon école d'ingénieur n'était pas du tout en lien avec ce que je pouvais lire ou les reportages que je regardais. Et donc, j'avais ce qu'on appelle une dissonance. Une dissonance, c'est quand d'un côté, on fait quelque chose et de l'autre, on voit bien que ce qu'on aimerait faire est complètement différent. Et donc, ça ne m'allait pas, en fait. Il y avait un écart entre les deux. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'engager. Alors je me suis dit qu'il me fallait un travail engagé, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans les énergies. Mais je voulais aussi m'engager dans des associations, dans la politique, pour en fait vouloir un peu changer les choses. Parce que je me rends compte que si on ne se mobilise pas, si on ne porte pas une voix différente autour de la société qu'on voudrait, en fait on va continuer comme on fait toujours, ou alors on va raconter des choses un peu faciles.
Du coup le projet il vise aussi à ce que les jeunes puissent interpeller les adultes. Est-ce que vous trouvez que au niveau politique, à Nantes Métropole, on prend assez en compte la vie des enfants et des jeunes? Et sinon, qu'est-ce qui pourrait être fait sur une prochaine mandature ou celle-ci?
Je pense qu'on ne prend pas assez en compte la parole des enfants. On a commencé à le faire à la Métropole parce qu'on a commencé à parler de ce qu'on appelle la ville à hauteur d'enfant. C'est-à-dire qu'on pense l'aménagement de la ville d'abord pour les enfants. Parce qu'on sait que quand on pense pour les enfants, en fait, on la pense bien pour tout le monde. Je pense qu'en effet, il faut qu'on travaille plus sur la prise en compte de la parole des enfants, d'autant que, en fait, vous êtes des citoyens à part entière. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas encore le droit de vote, on est quand même censé et obligé de prendre en compte votre parole. Voilà, vous n'êtes pas des citoyens à moitié, vous êtes des vrais citoyens. Donc, il faut qu'on fasse plus, ça c'est clair.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait envisager le fait de mettre beaucoup plus de verdure sur toute la ville ?
C'est ce qu'on essaye de faire aussi. Ça prend du temps parce qu'il faut trouver l'endroit. Et une ville, c'est un endroit qui est très contraint. Parce que vous voyez, quand on doit réaménager une rue, entre les deux façades d'immeubles ou les deux façades de maisons, bah, y a plein de choses qu'on veut mettre entre les deux. On veut mettre des trottoirs qui soient assez larges, on veut mettre une piste cyclable. Parfois, il y a encore un peu de stationnement. Donc maintenant, si on veut rajouter des arbres, et bah forcément, ça demande d'enlever quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose assez compliqué. Et en tant qu'élu, nous, ça nous demande d'aller très souvent sur le terrain pour discuter avec les gens, de voir bah, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Par contre, c'est super important qu'on remette de la nature dans la ville pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'on a un gros problème de biodiversité, on a un effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire il y a beaucoup moins d'oiseaux, beaucoup moins d'insectes, mais aussi parce que la nature nous protège face aux vagues de chaleur. Donc si vous savez, l'été maintenant, on a des moments où il fait très très chaud et pendant quelques jours, c'est parce que les arbres en fait viennent réguler la température et nous permettent d'être mieux quand il fait chaud.
Du coup, moi j'ai une question, est-ce que la transition écologique, ça coûte trop cher, très cher? Comment est-ce qu'on peut évaluer le coût et est-ce qu'on met assez d'argent dedans?
Si j'étais ministre de l'économie de la France, je vous dirais ça coûte trop cher. Parce qu'en fait, à un instant T, en ce moment, il faut investir, il faut mettre de l'argent, il faut changer des choses, il faut produire moins de choses aussi, donc ça coûte de l'argent, donc oui. Sauf que la question, c'est qu'est-ce qui coûte cher? Parce que si on continue comme on fait aujourd'hui, le réchauffement climatique, ça va coûter très cher aussi. Aujourd'hui, il y a des endroits en France où on n'a plus accès à l'eau pour faire pousser des légumes. Et donc, il faut adapter les cultures. Ça coûte énormément d'argent. Il y a aussi des gens dans le monde qui vont devoir changer d'endroit où ils habitent à cause de la montée des eaux. Ça va coûter très, très cher.
Est-ce que vous avez confiance dans la réussite de la transition écologique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel message on peut leur passer?
En fait, c'est compliqué comme question. Parce que d'un côté, je vois que les signaux ne sont pas bons du tout. On a vraiment des éléments sur le changement climatique qui sont assez terribles et il faut qu'on en soit conscient. Il faut dire la vérité sur l'avenir. Mais en même temps, pour nous, c'est un vrai défi de transformation. C'est-à-dire que nous, notre génération, on a vraiment quelque chose à faire. On a un objectif qui est de transformer cette société. Et la question de la confiance, elle se pose pas trop en fait. Il faut qu'on limite chaque dixième de degré, il faut qu'on s'adapte au mieux. On va avoir plein de débats qui vont nous accompagner dans toute notre vie en fait. On n'aura pas fini la transition à un moment donné. C'est pas en 2030 ce sera terminé puis ce sera bon. Il va y avoir plein de sujets qui vont se poser au fur et à mesure, ça va nous accompagner. Donc je pense que même si c'est un très grand défi, même si ça peut être un peu angoissant, faut prendre les choses sereinement, de manière déterminée parce qu'il y a plein de choses à changer. Faut demander aux autres, notamment aux adultes, d'être sérieux. C'est-à-dire que faut pas vendre des fausses solutions, faire croire que on va s'en sortir avec un peu de technologie, c'est pas vrai. On va y avoir beaucoup d'impact sur la société. Et voilà, on avance, on y va. Et puis, je pense que ça va aussi être beau.
Madame Léa Noël nous a expliqué que la loi pouvait contribuer à la transition écologique.
Alors, je m'appelle Julie Lernous et je suis députée de Loire-Atlantique.
Avez-vous voté ou proposé des lois écologiques? Si oui, lesquelles?
Alors, on a malheureusement un gouvernement qui n'est pas très préoccupé par le climat, surtout avec le remaniement ministériel, où le climat a complètement disparu des attributions ministérielles, et y compris l'énergie, parce que je travaille beaucoup sur l'énergie. Il n'y a plus de ministère de la transition énergétique, c'est passé à l'économie et l'industrie, ce qui veut un peu tout dire, c'est-à-dire on n'est plus dans une préservation de l'environnement, mais on est comme on produit de l'énergie, alors qu'on sait tous et tous que si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, bah, on a une nécessité de réduire notre consommation énergétique, donc ça veut dire changer par exemple nos modes de transport, mais aussi mieux isoler nos maisons pour moins consommer d'énergie.
Combien y a-t-il de lois concernant la transition écologique? Et lesquelles sont les plus importantes selon vous?
Bah, on en a eu pas mal, mais en fait, c'est ce que j'expliquais. On attendait une loi de programmation énergie-climat. C'est quoi une loi de programmation énergie-climat? C'est une loi qui va déterminer de combien on doit réduire notre consommation d'énergie et comment on va la produire. Ce qu'on constate, c'est que pour atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés d'un point de vue international à la COP21 de Paris, on a besoin de décliner dans les différents secteurs, dans l'agriculture, dans les transports, dans le logement, combien d'énergie on a besoin et comment on va la produire sans émission de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, par exemple, les voitures, elles sont très largement aux énergies fossiles, c'est-à-dire à l'essence ou au pétrole. Et donc, c'est des lois qui sont nécessaires pour donner une trajectoire et une visibilité, pour justement faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de leur voiture, et y compris pour les lignes de train en France, pour qu'on n'ait vraiment plus besoin de notre voiture. Et c'est pareil sur, par exemple, la construction des logements. comment on donne des normes ou de la réglementation thermique, ça s'appelle, pour dire bah, combien a le droit de consommer un logement neuf quand il arrive. Mais on a surtout aussi un challenge dans la rénovation du parc actuel des logements. Et en fait, toutes ces lois, elles, ce que j'expliquais, elles ne sont pas arrivées. Le gouvernement a fait le choix d'avoir aucune loi depuis le début de ce mandat, donc depuis juin 2022. Il n'y a aucune loi sur la transition écologique et le climat, ce qui est assez désespérant vu l'urgence dans laquelle on est. Et on voit aussi, y a eu les inondations le week-end dernier, mais on voit en fait déjà les conséquences du réchauffement climatique. Et ce que le GIEC, donc le groupe d'experts sur le climat, a démontré aussi, c'est que ce à quoi on ne s'attendait pas, forcément, c'est que l'Europe est extrêmement touchée par le réchauffement climatique. On en voit déjà pas mal de conséquences sur les sécheresses. Maintenant, c'est beaucoup de pluie, des inondations et donc les catastrophes naturelles. Et puis la biodiversité qui n'arrive pas non plus à s'adapter assez vite. C'est-à-dire que la température augmente trop vite. Et donc les arbres, par exemple, pour parler des arbres, ils ont du mal à résister parce que ce n'est pas les mêmes essences qui vont prospérer à une certaine température ou avec des conditions climatiques particulières. Et donc, il faut les aider pour planter les essences qui vont être adaptées à notre climat. Mais tout ça, en fait, ne fait pas l'objet réellement de... Et en fait, le gouvernement a fait le choix de taper sur l'écologie alors qu'on a besoin d'écologie. Parce que les agriculteurs, pourquoi ils n'ont pas assez pour vivre non plus, c'est qu'on les a entraînés dans une industrialisation de l'énergie où ils ont besoin de beaucoup de machines, de tracteurs, moins d'hommes et de femmes, et où ils sont dépendants des engrais. Et les engrais, les prix ont énormément augmenté. Et la question des pesticides qu'on retrouve aussi dans notre eau et qui, du coup, polluent réellement nos milieux. Donc, on n'a aucune loi. On attend la loi d'orientation agricole qui va venir normalement en mai-juin. Mais malheureusement, on n'est pas très optimiste sur ce que le gouvernement va mettre dedans. Donc, en fait, on n'a pas de loi sur la biodiversité, on n'a pas de loi sur l'énergie et le climat.
Quels sont les effets des lois sur la transition écologique? La loi sert-elle à quelque chose par rapport au changement climatique? Quels sont les freins politiques à la transition écologique? Pourquoi y en a-t-il et comment la freine-t-il?
Il y a beaucoup de lobbies, par exemple, des industries pétrolières. Prenez par exemple le groupe Total, donc dirigé par Patrick Pouyanné. Lui, il est pour continuer à faire un chiffre d'affaires exponentiel qu'il fait. Et donc, il est pour continuer à trouver et explorer plus de pétrole dans le monde. À tel point que même en France, sur la thèse de Buch, donc c'est en Gironde, là où ça a brûlé l'année dernière à cause des canicules, et bah, Total va en tout cas forer des nouveaux puits de pétrole. Donc on voit qu'ils ne sont pas du tout et qu'ils ne sont pas du tout contraints aujourd'hui par la loi ou pour le gouvernement. Donc on a une espèce de pression entre les entreprises, les grosses multinationales qui n'ont pas envie de changer les choses parce qu'elles sont, elles font beaucoup d'argent et qui font une pression aussi sur le gouvernement justement pour que rien ne bouge et rien ne change. Ce qui est très problématique parce que les grands industriels ou patrons de multinationales, on ne les a pas élus, on ne les a pas choisis. Et pourtant, on constate qu'ils ont peut-être plus de poids auprès du gouvernement que les parlementaires qu'on est et qui, pour le coup, ont été choisis et ont été élus.
Les adultes peuvent-ils agir autrement qu'en votant à leur échelle?
C'est super important d'aller voter, mais ça ne peut pas être le seul geste. On vit tous... et toutes et tous dans une société. Donc la société, elle est aussi le reflet de ce qu'on en fait. Donc c'est important de se mobiliser quand on trouve que quelque chose est injuste, ne va pas dans le bon sens. Et des fois, on arrive à changer les choses quand on n'est pas d'accord, en se mobilisant, justement. C'est important de pouvoir s'engager, parce qu'on est plus fort quand on est unis aussi. Donc au-delà de voter, c'est aussi participer à la vie démocratique pour justement faire pression sur les règles communes. Donc, après, on constate aussi que les gens votent de moins en moins, il y a de plus en plus d'abstention. Et c'est un problème parce que du coup, ce qui est issu des votes est moins représentatif de ce que tout le monde pense.
Que peut-on faire quand on a 12-13 ans
et que l'on ne peut pas voter?
Il y a des actions que vous pouvez faire au quotidien. Moi, je sais que quand on voit un enfant, par exemple, dans la rue ou qu'il y a un adulte qui jette un papier par terre et qu'il y a un enfant qui le ramasse et qui dit « Madame, la poubelle, elle est là-bas », ça interpelle les élus. Moi, j'ai déjà vu des enfants qui se mobilisaient pour, par exemple, nettoyer un parc avec leur classe. ça interpelle les gens qui se baladeront aussi dans le parc. De manière générale, je pense que l'engagement est hyper riche. C'est une aventure collective. Donc, si vous vous engagez collectivement sur des actions précises ou plutôt sur des actions diffuses, enfin, vous avez tous vu Greta Thunberg aussi qui a lancé le fait des vendredis où elle faisait grève de l'école justement parce que pour obliger les adultes à faire quelque chose par rapport au réchauffement climatique. C'est une pression collective, c'est votre avenir aussi qui est en jeu. Vous avez le droit, vous avez la légitimité pour vous exprimer. Et puis après, vous pouvez aussi, ça c'est pour se mobiliser en positif sur des actions que vous pouvez faire de manière concrète. Et après, il y a aussi réinterroger les choses auprès de vos parents, auprès de... là-dessus, vous avez une influence absolument directe, puisque vos parents, logiquement, vous êtes la chose la plus chère qu'ils ont au monde. Donc si vous leur interpellez, et puis la discussion peut amener des choses aussi intéressantes. Donc il y a différentes manières, quelque part, de s'engager, y compris en étant enfant.
Comment pensez-vous que la transition écologique évolue ?
Il y a une certaine forme de prise de conscience. Donc il y a des choses qui avancent quand même. Donc il y a un aspect positif. Par exemple, les COP, donc les conférences internationales organisées par les Nations Unies, il y a une prise de conscience, il y a les États 10 qui vont faire des choses. Après, dans la mise en œuvre, ce n'est pas toujours au rendez-vous. De manière générale, je trouve qu'on avance quand même plus que quand moi, j'avais votre âge. Après, ce qui est quand même inquiétant là au niveau du monde, c'est la progression de l'extrême droite un peu partout. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite sur l'écologie sont très anti-écologie. Ils sont anti-démocratie, ils sont anti plein de choses. Mais sur l'écologie, c'est une régression à chaque fois.
Si tout le monde est conscient qu'il faut agir et que l'extrême droite est anti-écologie, pourquoi l'extrême droite progresse ?
Alors ça, faudrait peut-être plus qu'une heure. Mais en fait, pourquoi l'extrême droite progresse ? On peut regarder, vous le faites, j'imagine, je ne sais pas à quel moment, mais sur l'histoire, notamment par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement d'Hitler. Il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Mais un des facteurs qui, de manière inquiétante, on voit monter un peu partout, c'est l'explosion des inégalités. Parce que quand les choses sont très inégales, quand les riches ne payent pas d'impôts et les plus modestes en payent, par exemple... ce qui est un peu le cas, parce que le gouvernement aujourd'hui ne veut pas augmenter les impôts sur les riches. Mais par contre, par exemple, avec les retraites, font peser le système des retraites sur ceux qui ont le moins. Donc, c'est pas très juste. Et quand les gens ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, ce qui génère beaucoup de stress aussi, on ne croit plus au système et du coup, on vote contre le système. Et souvent, l'extrême droite se présente comme contre le système. Et ils disent, on n'a jamais essayé ça. En fait, c'est la colère et l'injustice qui génèrent aussi souvent un vote de rejet. On a l'impression que toute la classe politique, les élus, sont de mèche les uns avec les autres pour maintenir un système qui est injuste justement pour eux. Donc après, c'est pas tous les facteurs, mais c'est un facteur qui est réellement à l'œuvre. Et c'est aussi pour ça que sur l'éducation, notamment le fait que l'État n'investit plus dans sa jeunesse ou en tout cas essaye de la mettre au pas, c'est inquiétant parce que justement on a besoin d'apprendre à réfléchir et si on n'investit plus dans notre jeunesse, on n'investit plus dans notre avenir.
D'après le rapport 2023 du Haut Conseil au climat, plus de 3145 lois climatiques ont déjà été adoptées dans le monde. Elles ont permis d'éviter l'émission de plusieurs milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Au moins 18 pays, dont la France, ont vu leurs émissions diminuer. Malgré cela, la baisse des émissions brutes en France doit presque doubler. Tous les secteurs doivent rehausser leurs efforts et agir avec urgence. Les transports, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, les déchets.
Nos invités ont beaucoup réfléchi à comment changer le rythme de la transition écologique. Grâce à eux, nous avons appris qu'en adoptant des politiques publiques plus vertueuses, la transition écologique est possible. Cependant, chacun d'entre nous doit aussi prendre de nouvelles et bonnes habitudes pour les années à venir.
Nous pouvons moins polluer en arrêtant de créer des objets inutiles, éviter de prendre la voiture lors des courts trajets et distances, recycler des vêtements en allant dans des friperies, prendre des douches moins longues, prendre de nouvelles habitudes.
C'était la 5e F, merci de nous avoir écoutés. On remercie Madame Balzer, Monsieur Citeau, Monsieur Riom, et Madame Laire-Noës.
Rendez-vous demain même heure pour découvrir la suite des épisodes de cette série engagée et éclairée. Les épisodes seront à retrouver très bientôt en podcast sur notre plateforme Castopod.